Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 3 janvier 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Soudan, démission du Premier ministre Abdalla Hamdok après de nouvelles manifestations hier. Au Kenya, 6 morts dans une attaque attribuée aux islamistes Shebab près de la frontière avec la Somalie. En Afrique du Sud, l'incendie dévastateur au Parlement au Cap a repris après une accalmie. Forte augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis avec 4000 nouvelles contaminations par jour. Tempête de neige dans la région de Washington, plus de 2000 vols ont été annulés. Nous irons ensuite au Cameroun qui s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations ou la grande fête du football africain. Au Soudan, le Premier ministre Abdalla Hamdok a démissionné après une nouvelle journée de manifestations meurtrières hier. Les militaires sont désormais seuls aux commandes. Le point avec Ginny Kapumbu-Villa.
En jetant l'éponge, le Premier ministre Abdalla Hamdok fait redouter un retour à la dictature au Soudan. Depuis le coup d'État du 25 octobre, 57 manifestants ont été tués, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. De nombreux journalistes ont été battus et même arrêtés. L'Internet et le téléphone ne fonctionnent que selon le bon vouloir du pouvoir. Fin novembre et après un mois en résidence surveillée, M. Hamdok avait retrouvé son poste après un accord avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Paralysé et n'ayant rien pu accomplir, il laisse un pays divisé en deux. D'un côté, les militaires seuls au pouvoir et de l'autre, les manifestants qui sortent dans les rues et font face à plus de violence selon les analystes. Un décret d'urgence du général Burhan fait redouter davantage de violence. Ainsi, les membres des services de sécurité, l'armée, la police, les renseignements et les paramilitaires des forces de soutien rapide bénéficient d'une immunité et ne peuvent être interrogés.
Au Kenya, 6 personnes ont été tuées dans le comté de Lamu, près de la frontière avec la Somalie, lors d'une attaque menée par des islamistes Shebab présumés, selon la police. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après la police, un homme a été décapité et 5 ont été tués par balle ou brûlés dans cette attaque survenue à environ 420 km de Nairobi. Irungu Macharia, préfet du comté de Lamu, dit soupçonner les islamistes Shabab. Selon le rapport de la police, plusieurs maisons ont été incendiées dans la localité. Le gouverneur du comté de Lamu, Fahim Tahwa, a condamné ces atrocités commises contre des innocents. Le comté de Lamu se situe près de la frontière avec la Somalie et a déjà été le théâtre de plusieurs attaques. En janvier 2020, les Shabab ont averti le Kenya qu'il ne serait jamais en sécurité, menaçant les touristes et lançant un appel à des attaques contre les intérêts des États-Unis. Leurs combattants avaient alors pris d'assaut une base militaire américano-kenyane sur une des îles de l'archipel de Lamu, tuant 3 Américains et détruisant plusieurs avions. Le même mois, au moins 3 personnes ont été tuées dans une embuscade contre un autocar qui circulait entre cette région et la ville touristique de Malindi.
En Afrique du Sud, l'incendie dévastateur qui a ravagé le Parlement au Cap et qui avait été maîtrisé dans la matinée a repris ce lundi avant 17h locale. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le feu a repris dans le toit du bâtiment abritant l'Assemblée nationale, dont l'enceinte a été complètement ravagée par les flammes la veille, a déclaré Germaine Carles, porte-parole des pompiers de la ville du Cap. Les secours avaient annoncé dans la matinée que le feu était sous contrôle et une trentaine de pompiers ont dû revenir pour tenter de venir à bout des flammes. Le feu a démarré hier dans l'aile la plus ancienne de l'édifice. Dans cette partie historique, qui recèle quelques 4000 œuvres d'art et de patrimoine, le toit a été entièrement détruit. Un homme de 49 ans, arrêté dans l'enceinte du Parlement, a été inculpé pour vol avec effraction et incendie criminel et doit être présenté à la justice demain mardi. C'est la seconde fois en moins d'un an que le Parlement est endommagé par les flammes. Un incendie rapidement circonscrit s'était déclaré en mars.
En Tunisie, 2 militaires sont morts aujourd'hui dans un crash d'hélicoptère lors d'une mission de routine dans la région de Bizerte, dans le nord du pays. Le copilote est mort sur le coup et le pilote est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures, a précisé le porte-parole du ministère de la Défense, Mohamed Zekri. L'ex-ministre de la Justice tunisien Noureddine Biri du parti Ennahda, hospitalisé hier 2 jours après son arrestation, refuse de s'alimenter et de prendre des médicaments, selon une délégation conjointe de l'ONU et de l'instance de prévention de la torture qui lui a rendu visite. Monsieur Biri est pris en charge au service cardiologie de l'hôpital, a précisé la délégation. Plus de 4000 migrants sont morts ou ont disparu l'an dernier lors de la traversée en mer vers l'Espagne, soit 2 fois plus qu'en 2020, selon l'ONG Caminando Fronteras. 2021 est l'année la plus meurtrière depuis 2015. Maria González Roland, co-auteur du rapport, a déploré la féminisation des routes migratoires vers l'Espagne, où 628 femmes et 205 enfants sont morts ou ont disparu en 2021.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face au variant Omicron, les pays du monde entier misent sur la vaccination et pour éviter la paralysie économique, beaucoup allègent les règles d'isolement des malades. Le point avec Nani Talani.
Omicron est très contagieux, mais pour l'heure ne s'accompagne pas d'une hausse des décès. Le docteur Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche, souligne la nette augmentation des cas aux États-Unis avec près de 400 000 nouvelles contaminations par jour. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a contracté le virus et reste en quarantaine chez lui. Israël a commencé à administrer une 4e dose de vaccin aux plus de 60 ans. L'Inde a démarré la vaccination des adolescents de 15 à 18 ans, avec un couvre-feu à partir de 22 heures à New Delhi et à Bangalore. L'Afrique du Sud a aboli le 31 décembre le couvre-feu nocturne en vigueur depuis 21 mois. Mokgweetsi Masisi, le président du Botswana, a été placé en isolement après avoir été testé positif au COVID-19. Enfin, le Koweït appelle ses citoyens à reporter leur voyage vers la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie, compte tenu de la hausse sans précédent du nombre de cas dans ces pays.
Après des fêtes marquées par des températures très douces, la région de Washington est confrontée à une tempête hivernale. Entre 12 et 30 cm de neige devraient tomber sur la capitale américaine, ont averti les services météorologiques, plaçant la ville et l'État de Virginie sous alerte jusqu'à 16 heures locales. La tempête qui balaie la côte est avec des vents violents et de fortes chutes de neige pourrait entraîner des coupures de courant et des inondations. Le gouvernement a annoncé la fermeture des services fédéraux à Washington et de nombreuses écoles sont fermées dans la région. Ce lundi, plus de 2000 vols ont été annulés, soit presque autant que samedi et dimanche. Dans une déclaration commune, les 5 pays membres du Conseil de sécurité se sont engagés à prévenir la poursuite de la dissémination des armes nucléaires. En pleine négociation avec l'Iran, les puissances nucléaires soulignent qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Cette déclaration est publiée avant la tenue de la 10e conférence d'examen des parties au traité sur la non-prolifération, entrée en vigueur en 1970 pour empêcher la propagation des armes nucléaires. En Irak, les militaires américains ont abattu ce lundi 2 drones piégés visant la coalition anti-djihadiste à l'aéroport de Bagdad. L'attaque aux drones intervient le jour même du 2e anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien tué dans une attaque américaine. Le Koweïtien Haitham Al-Gaïs a été nommé secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a annoncé le cartel à la veille de sa réunion mensuelle. Il prendra ses fonctions en août pour une durée de 3 ans. Monsieur Gaïs remplacera le Nigérian Mohamed Barkindo en poste depuis 2016, alors que l'OPEP fait face au défi de la reprise de la demande de pétrole après le choc de la pandémie de COVID-19.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Vous le savez, c'est la dernière semaine d'Avant-CAN 2021 qui commence dimanche 9 janvier au Cameroun.
6 groupes de 4 ont été constitués pour cette deuxième CAN à 24 équipes. Nous allons vous les présenter tout au long de cette semaine avant le rendez-vous d'ouverture. Ce soir, nous mettons le cap sur le groupe F basé à Limbé et Boya, dans le sud-ouest du Cameroun. Il regroupe la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Bagassi Koura.
Quatrième de la zone Afrique au dernier classement FIFA, côté statistique, la Tunisie apparaît comme l'équipe favorite de cette poule F, basée à Limbé et Bouéa. Amenée par le coach Mondaire Kebayer et le redoutable buteur Wabi Kasri, les Aigles de Carthage peuvent compter sur leurs expériences dans cette compétition, dont leur pays totalise 20 participations et un succès en 2004 à domicile. Les Tunisiens ont aussi à leur avantage un parcours sans faute lors des éliminatoires. 5 victoires en 6 journées. Ils sont la seule équipe à remporter le plus de victoires, des statistiques rassurantes qui n'emballent pas du tout le serial buteur tunisien Wabi Kasri.
On est le Mali à la dernière Coupe d'Afrique, qui est une très belle équipe, qui avec beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe et qui sont très, très talentueux. La Mauritanie qu'on a eue pendant les phases de poules avant la Coupe du Monde et qui est l'équipe accrocheuse, d'ailleurs on s'est fait accrocher là-bas. Et la Gambie, je ne connais pas du tout, donc voilà, mais après on sait qu'en Afrique, il n'y a pas de favori, on sait que tout le monde peut battre tout le monde. Et...
Les Aigles de Carthage seront en concurrence directe avec les Aigles maliens, l'autre grosse tête de ce groupe F, contre qui ils disputeront leur premier match le 12 janvier. Le Mali, 12 phases finales de la CAN, c'est une marque du sélectionneur local Mohamed Magasouba, 63 ans, en place depuis septembre 2017. Le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers ont reçu un renfort de taille, celui de Yves Bissouma. Le milieu de terrain de l'équipe anglaise de Brighton fait son retour en sélection après une absence depuis 2018 pour des soucis avec la fédération. Autre joueur malien en forme, Amadou Aïdara ou encore Diadier Samasekou. En revanche, les Maliens se sont passés de leur imposant attaquant Moussa Marega, qui n'a plus été sélectionné depuis la CAN 2019. Les Aigles voudront surfer sur leur beau parcours en éliminatoire du Mondial 2002 avec leur qualification pour les barrages. Pendant les éliminatoires, les Maliens ont dominé leur groupe, finissant premier avec 13 points devant la Guinée, avec un total de 4 victoires, une défaite et un match nul. Dans ce groupe F, ils joueront la Mauritanie, qu'ils connaissent pour avoir pulvérisé les Mourabitounes lors de leur premier match pendant la CAN Égypte 2019. Justement, la Mauritanie fait partie des petits poussés de ce groupe F, jouant sa deuxième CAN d'affilée, mais les Mauritaniens ont un gros avantage, leur insouciance. Face au Mali et à la Tunisie, les Mauritaniens savent bien qu'ils joueront leur avenir dans cette CAN 2021. Mais les garçons du coach français Didier Gomes da Rosa n'ont aucune pression. Ils ont réussi à se tirer d'affaire dans les éliminatoires, finissant deuxième de leur groupe derrière le Maroc avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite. L'équipe mauritanienne en pleine progression peut miser sur des joueurs qui se connaissent bien, car évoluant pour la plupart dans le championnat local, la Mauritanie cherche sans doute à se concentrer sur son potentiel adversaire direct, la Gambie, qui boucle le groupe F. Un meilleur positionnement à la troisième place permettra aux Mourabitounes de rêver d'une place de meilleure troisième qualificative pour les huitièmes de finale. Eux font partie des novices de cette CAN. Les Gambiens découvriront une phase finale de CAN pour la première fois cette année au Cameroun. Les Scorpions, comme on les appelle, ont surpris en éliminatoire, finissant premier de leur groupe avec 10 points devant le Gabon, l'autre qualifié du groupe, et la RDC et l'Angola. Cette performance XXL du sélectionneur belge Tom Saint-Fiet et du capitaine Pamodou Diagne fait des Gambiens une équipe à surveiller. Ils ont aussi l'avantage d'évoluer avec de nombreux joueurs locaux peu connus de leurs adversaires. Mais les Scorpions s'attendent sans doute à un apprentissage difficile et peut-être même douloureux face aux Maliens et Tunisiens et l'imprévisible Mauritanien.
Merci Bagassi pour cette présentation du groupe F qui entre en compétition le 12 janvier dans cette CAN Cameroun 2021. C'est ici que se referme cette page spéciale du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, le chef de la junte, Mahamat Déby, a, dans son traditionnel message à la nation à la veille de la Saint-Sylvestre, fixé la date du début du dialogue national inclusif au 15 février. La coordination des actions citoyennes qui exige les garanties d'un dialogue sincère dit ne pas être concernée par cette annonce. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmadjingar.
Contre toute attente, le chef de la junte militaire au pouvoir, le général Mahamat Idriss Déby, fixe la date du dialogue national au 15 février 2022. Il se félicite des résultats obtenus dans l'organisation des pré-dialogues à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Un dialogue sans tabou et souverain qui commencera le 15 février 2022 et dont les conclusions seront pleinement exécutoires. À l'issue duquel une nouvelle constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées. C'est le lieu de saluer l'adhésion unanime au principe du dialogue par les forces vives de notre nation. C'est une étape importante franchie dans la marche pour la réconciliation nationale.
Commentaire en privé dans le quartier général de la coordination des actions citoyennes Wakitama qui exige la modification de la charte de transition avant l'organisation de cette consultation politique. Si le conseil militaire de transition persiste dans ses erreurs, il sera seul responsable de tout ce qui adviendra, estime Morba Gilbert, conseiller technique à la dite coordination.
Pour une société qui a connu de conflits et de conflits des décennies durant, nous voulons que nous fassions une transition vers un autre modèle social, un autre modèle politique. Parce que la réconciliation nationale a raté. Assoyons-nous, reposons, construisons la base d'une nouvelle société tchadienne. C'est ça qu'on réclame seulement. Et on a demandé au CMT simplement d'introduire ça dans un engagement de charte, de façon à ce que nous, là, on accorde confiance au projet qu'ils nous présentent. Ils n'en veulent pas. Alors, ils disent qu'ils gèrent la transition et ils ne veulent pas qu'on discute des vraies questions de la transition. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ces gars-là, ils ne sont pas en train de gérer la transition, ils sont en train de s'ancrer et de s'accaparer du pouvoir politique pour le gérer pour la suite. Donc, moi, je vous dis clairement que le dialogue, là, elle n'aura pas lieu. Ce qui va se passer, c'est le troisième forum du Déby père prolongé par Déby fils. Nous sommes tout à fait dans la dictature. Il n'y a rien d'autre à espérer. La seule chose à espérer, c'est que c'est la rue qui va décider de la démocratie.
L'ancien chef de file de l'opposition aujourd'hui, vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif Saleh Kebzabou, appelle ses compagnons d'hier à la retenue.
On fait un travail satisfaisant. On l'a fait en notre âme et conscience, avec toute la bonne volonté nécessaire pour qu'on ait un bon dialogue. Et j'en suis vraiment optimiste. Tel qu'on l'a défini dès le départ, c'est un dialogue inclusif. Bien sûr qu'au dialogue, on ne va pas inviter les 15 ou 20 millions de Tchadiens. Il y en a qui vont s'exclure de ce dialogue. Et ça, c'est de leur responsabilité. Et je ne vois pas quelles conditions extraordinaires ils peuvent poser. Il faut qu'eux-mêmes, je pense, se mettent au niveau des autres pour se dire que si 90% des Tchadiens acceptent d'y aller, est-ce que vraiment les 90% des Tchadiens ont tort? Ils sont aveugles, ils ne comprennent rien et que c'est les 10% seulement qui entendent, voient et comprennent plus que les autres.
La date du 15 février 2022 retenue pour le début de ce dialogue est conditionnée par la tenue du pré-dialogue entre gouvernement de transition et politico-militaire prévu pour mi-janvier à Doha au Qatar. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Mali, une dizaine d'organisations politiques ont rejeté la proposition de prolonger la transition de 5 ans présentée samedi par le gouvernement à la CEDEAO. Dans un communiqué publié hier, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie estime que cette durée viole la charte de la transition. Les assises nationales de décembre ont recommandé une transition de 6 mois à 5 ans. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Bamako Sékou Tangara, directeur de la chaîne Africable.
Bon, on ne peut pas dire que c'est véritablement une surprise, puisqu'au départ, on peut même penser que ce sont plutôt les participants aux assises qui ont fait cette proposition. C'est une fourchette dans l'ensemble, hein, dans pratiquement les 4 ateliers, ils ont eu à proposer comme durée de la transition de 6 mois à 5 ans. Donc, ce sont ces conclusions-là que les autorités de la transition ont acheminées à la CEDEAO. Et bon, 5 ans, 6 mois, on verra dans quelle fourchette la CEDEAO va se mettre pour trancher définitivement cette question.
Et quelles sont les réactions à Bamako? On sait que le cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition réussie, qui regroupe une dizaine de partis, estime que cette durée viole la charte de la transition.
Oui, le cadre d'échange pour une transition réussie n'y va pas du dos de la cuillère. Hein. Pour lui, c'est un troisième coup d'État. Le fait que les autorités de la transition se servent de ces propositions des ANR pour aller à 5 ans pour le cadre d'échange, c'est un troisième coup d'État après celui contre Ibeka, après celui contre Bandao. Il pense que c'est un troisième coup d'État que la junte veut un septennat, puisque les 5 ans ajoutés déjà aux 18 mois ou 2 ans pour le cadre d'échange, on est en train vraiment de glisser vers l'autocratie, vers la dictature, et pour le cadre d'échange, c'est une proposition qui ne passe pas du tout.
Alors, c'est vrai que certains à Bamako étaient d'accord sur le principe de donner plus de temps à la transition pour bien organiser des élections et assurer la sécurité, mais est-ce que cette durée de transition ne serait pas un peu trop pour ces mêmes disons ces mêmes personnes qui étaient en faveur d'une prolongation de la transition?
Effectivement, hein, c'est le sentiment général. Hein, beaucoup qui avaient souhaité les autorités de la transition au départ pensent qu'on est en train d'aller un tout petit peu vers un glissement. Ils pensent qu'un an, c'est raisonnable, 18 mois, mais de là à vouloir demander 5 ans pour les premiers soutiens de la transition, ce serait trop. Et ils pensent qu'on est en train d'aller vers un glissement de la junte au pouvoir qui veut se maintenir manifestement au pouvoir, hein, pour ces observateurs-là.
Le journaliste Sékou Tangara était joint à Bamako, au Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
À l'approche des élections locales au Sénégal, beaucoup de jeunes surentraînés et de lutteurs investissent le champ politique pour faire office de garde du corps ou nervi, une tendance qui amène souvent la violence dans la campagne à cause du manque de formation et d'expérience de ces jeunes dans le domaine de la sécurité rapprochée. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Sédina Abakei.
Durant les campagnes électorales, des bagarres débouchant des fois sur de graves blessures et morts d'hommes sont causées par des nervis. Recrutés pour assurer la sécurité, ils n'en ont pas les compétences. Les hommes politiques qui les emploient sont les premiers incriminés. Ils se défendent d'être tous pareils. Aline Badrasek, candidat à la mairie d'Ndiarem Limamoulaye, dans la banlieue de Dakar, rejette la faute sur les autres.
C'est inadmissible qu'un leader politique, quel que soit son rang sur le champ politique, de recruter des nervis qui n'ont aucune qualification en matière de sécurité. Parce que disons que la sécurité rapprochée est une formation professionnelle qui se fait parce que qu'on doit protéger la personne et protéger aussi le champ de la personne, le chemin qu'il doit prendre, tout ça, alors que les nervis, ils sont juste là pour tabasser les pauvres citoyens. C'est inadmissible, c'est vraiment écœurant.
Pour Abdoudja, un habitant de la banlieue dakaroise, certains politiciens mettent en péril leur sécurité et celle des citoyens en usant de l'argument de la force.
Moi, je pense que les politiciens qui utilisent les nervis n'ont pas confiance en eux, hein, parce que bon, à chaque fois, on assiste à des détournements de centaines de milliards dans ce pays, raison pour laquelle là où ils se déplacent, ils utilisent des nervis pour pouvoir se protéger, quoi. Moi, je pense que normalement, s'ils avaient les mains vraiment très très propres, ils n'avaient pas besoin de nervis, quoi. Mais je pense que c'est pas une chose normale, quoi. Pour les nervis eux-mêmes, c'est très 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 dangereux pour eux, parce qu'il y a des zones où ils rentrent avec les politiciens, ils risquent d'être tués. Ou si on les identifie, leur famille et toute leur compagnie sont vraiment menacées.
Les jeunes utilisés comme nervis par les politiciens sont conscients du danger, mais le manque de ressources les pousse à risquer leur vie pour une modeste somme. Ce jeune de la banlieue exerce dans le domaine. Il a requis l'anonymat pour donner son témoignage.
Nous, on a de la force, on s'entraîne tous les jours et on n'a pas de travail. Donc si on nous appelle pour sécuriser une personnalité politique et qu'on nous paye, même si on nous appelle nervis, on gère car on nous paye la journée donner 10 000 francs CFA. On est obligé d'accepter. On n'a pas le choix. Il y a des risques, bien sûr, parce que sécuriser une personnalité demande beaucoup de choses. Des fois, on se bat même pour protéger les leaders sans arrière-pensée, quitte même à tabasser certaines personnes pour montrer qu'on fait bien notre travail. Il y a beaucoup de risques. On peut même y laisser la vie.
Pour contrecarrer les nombreuses dérives notées durant les périodes électorales au Sénégal, le ministre de l'Intérieur a émis un arrêté interdisant le port d'armes de toute catégorie jusqu'au 20 février 2022. Reste maintenant à réguler l'épineux problème de la sécurité privée durant la campagne. Seydina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le salon de l'électronique à Las Vegas est le plus grand événement technologique de l'année aux États-Unis. Les grandes annonces sur les nouveautés sont généralement faites lors de cet événement phare. Mais les restrictions liées à la crise sanitaire ont poussé de grands intervenants à renoncer à y participer en personne. Et suite à l'augmentation des cas de Covid-19, le salon a été réduit à 3 jours au lieu de 4 auparavant. Un reportage d'Arzuma Compaoré sur place à Las Vegas.
Eh bien, le CES, le salon de l'électronique grand public de Las Vegas, est de retour en présentiel. En vérité, jusqu'à la toute dernière minute, personne ne savait vraiment si les organisateurs allaient maintenir cette option en présentiel ou simplement remettre l'événement en virtuel.
Comme l'année précédente.
Eh bien, ils ont finalement décidé que Omicron, le nouveau variant de Covid qui perturbe le monde entier en ce moment, eh bien, ne gagnera pas la partie. Un peu quand même, parce que la Consumer Technology Association, CTA, un marque déposée qui organise le CES, a annoncé le 31 décembre que le plus grand salon technologique de l'année, eh bien, ne durera finalement que 3 jours au lieu de 4. Le grand patron de la CTA lui-même, Gary Shapiro, a déclaré qu'ils maintiendront l'option en présentiel, mais que tous les participants devraient être vaccinés. Et afin d'atténuer un peu la douleur, ils fournissent même des tests rapides de Covid aux participants et dès l'aéroport.
Nicole Scott travaille avec le site d'information technologique Mobile Geeks.
Le CES, à la base, est un salon professionnel où les entreprises viennent se présenter au monde. Pour beaucoup d'entre elles, en particulier les entreprises américaines, c'est là qu'elles viennent pour trouver du capital risque, rencontrer des journalistes, raconter leur histoire afin de trouver de l'argent. Et une grande partie de cela est difficile à faire virtuellement parce que le rapport signal-bruit est tout simplement trop élevé en ligne.
Stands vides. Au total, 2200 exposants présenteront des technologies qui vont venir résoudre certains des plus grands problèmes dans les domaines de la santé, de l'énergie, de la mobilité, de l'environnement et bien d'autres encore. L'inscription en ligne au CES est désormais opérationnelle et ça reste l'un des meilleurs moyens pour accéder à plus de 50 sessions de conférences, aux discours principaux et à la possibilité d'entrer en contact avec les exposants au CES. Donc, même si vous êtes à Ouagadougou, à Kinshasa, à Lagos ou à Mogadiscio, vous pouvez quand même assister au plus grand événement technologique du monde. Pour ma part, l'un des meilleurs moments de cette semaine aura lieu ce lundi même. Il s'agit de l'événement médiatique officiel du CES. Plus de 130 exposants proposeront des technologies révolutionnaires que les médias pourront découvrir en exclusivité, eh bien, 2 jours avant l'ouverture du salon. Sans oublier que les premiers produits des lauréats des CES Innovation Awards seront également exposés. Voilà, beaucoup de découvertes passionnantes en perspective. Et bien sûr, VOA Afrique sera là pour vous les montrer en détail. Arzuma Compaoré pour VOA Afrique, Las Vegas.
C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi le monde aujourd'hui. Toute l'équipe de VOA Afrique vous souhaite une excellente année 2022.
Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, et mis un mot m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui sont donc pleins de remords. Nana lina yo mini, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh.